Alors, donc, pour un autre portrait de la France, la question arrivait après l'apparition du Mystère français d'Emmanuel Todd, et qui venait un an ou deux après les fractures. Pardon, oui. Donc, après l'apparition du Mystère français d'Emmanuel Todd et 2 ans à peu près. Après l'apparition de Fractures françaises de Christophe Guillouis et de sa republication en format poche il y a peu de temps. Alors, pourquoi cette question-là après ces deux parutions? Parce que ce sont deux ouvrages qui ont connu un. Excusez-moi, c'est un peu compliqué d'avoir tout en tête. Ces deux ouvrages qui ont eu une aura dans le monde politique, dans le monde médiatique, assez, voilà, de façon assez importante. Et ces deux ouvrages-là sont particulièrement critiquables. Alors pourquoi ils sont critiquables? Ils répondent à une question, c'est à un constat, puis à une question. Le constat, c'est le Front National un pourcentage aux élections qui va en augmentant. Deuxième constat, ce serait plutôt les zones périurbaines qui voteraient Front National. Et la question, mais pourquoi donc? Et la réponse, par exemple, de Christophe Guillouis, qui n'est pas du tout caricaturée, je tiens à le dire parce qu'elle est caricaturale, c'est en gros, les populations des classes moyennes habitent les zones périurbaines, ils payent des impôts et ils ne voient pas le résultat des impôts qu'ils payent, alors que ce sont les banlieues de chômeurs, d'immigrés, de gens qui ne votent pas, et à peine sous-entendu de gens plutôt de peau foncée qui profitent des subsides de l'État. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la description de ce livre. Si vous avez envie de le lire, empruntez-le, ne l'achetez pas. C'est pas bien de dire ça, mais voilà, c'est vraiment le fond de ma pensée, dans le sens où il est plein d'inexactitudes et puis plein vraiment de choses qui sont lourdes de sous-entendus entre une population de souche et des autochtones. Alors après, qu'est-ce que c'est que le capital d'autochtonie? On peut en faire ce qu'on veut. Mais ce qui est assez dramatique, par contre, ce monsieur écrit ce qu'il veut et puis peu importe. Ce qui est dramatique, c'est l'écho que des livres comme ça peuvent avoir dans un public politique de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite. C'est-à-dire que ce discours-là, il est avalé par tout le monde et il est suivi par tout le monde. Donc voilà. Ensuite, le livre d'Emmanuel Todd qui est arrivé, qui a lui aussi eu un impact médiatique très important, qui lui aussi est plein d'inexactitudes et qui peut se résumer à la France de toute façon ne bouge pas puisque elle est installée sur un fond de catholicisme profond et donc la structure globale de la société française serait de toute façon déterminée par cette histoire catholique de notre bon vieux pays. Faisant un peu fi de quelques vagues migratoires depuis quelques dizaines d'années, faisant fi aussi de toutes les turbulences et les mouvements qui peuvent exister à l'intérieur même du pays. Alors, se pose la question de qu'est-ce que c'est finalement que la France et qu'est-ce qu'on pourrait dessiner comme portrait de la France. Alors moi, ce que je vous propose, parce que je m'occupe plutôt de la ville, c'est de changer d'échelle et de ne pas voir forcément le pays dans son ensemble global vu de haut, mais d'aller gratter un peu de façon locale, et donc du point de vue de la ville, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Pour voir ça. Alors, je suis géographe et j'ai la faiblesse de croire que tous les êtres humains sont des géographes à partir du moment où ils ont conscience d'avoir les pieds par terre et d'occuper cette planète. L'occuper, ça veut dire l'habiter, ça veut dire l'aménager, et ça veut dire avoir conscience justement de cet aménagement. Avoir conscience de cet aménagement, c'est avoir l'idée que l'aménagement urbain, dans son échelle la plus grande, donc dans ce qu'il y a de plus local, c'est aussi la définition d'un projet de société, et qu'à partir du moment où on a une illustration urbaine, quelle que soit la taille de la ville, pour que les choses soient claires, je vais dire que c'est la ville parce que l'on habite la campagne ou que l'on habite la grande ville, qu'on habite Paris ou qu'on habite la Saint-Jean-de-Maurienne ou la toute petite ville, on a finalement des modes de vie qui sont identiques. La plupart, nous sommes tous connectés à Internet. La plupart, nous faisons tous des courses au supermarché, par exemple. On a tous vaguement une conscience de ce que c'est qu'une ville un peu importante. C'est pas parce qu'on habite dans le milieu rural qu'on ne travaille pas en ville. Donc voilà. Donc, globalement, je vais dire que nous sommes des urbains. Et donc, comme nous sommes des urbains, la façon d'aménager notre environnement, notre façon de faire, donc finalement l'urbanisme, c'est le reflet d'une vision de la société et de choix politiques. Alors ce portrait de la France, il s'attache aussi à voir ce que sont ces zones périurbaines qui, paraît-il, votent plus Front National que d'autres. Et ce qui est assez étonnant, par exemple, dans le livre d'Emmanuel Todd, c'est qu'à aucun moment il ne parle de la désindustrialisation. Et pourtant, c'est un phénomène, un processus qui marque grandement et les paysages, et l'urbanisme, et les questions de foncier, et les questions de logement, et les questions d'habiter la ville. Alors, ces territoires qui sont des territoires qui ont été producteurs de richesses, certains le sont encore, mais qui ont été des territoires de production de richesses, sont aujourd'hui des territoires qui sont en déshérence, plutôt en paupérisation. Et ça depuis, on va dire, vraiment le début des années 80, fin des années 70, début des années 80. La désindustrialisation, elle est pour ces territoires à la fois la perte d'emplois, mais ça veut dire aussi la perte de revenus pour les villes, pour les communes, à un moment où les besoins sociaux se font de plus en plus pressants, parce que c'est pas le tout d'avoir une population qui perd son emploi, c'est que c'est une population qui ensuite va être en demande d'aide sociale, ce qui est logique puisqu'on est dans une société qui se veut solidaire, et heureusement qu'elle l'est encore quelque peu, mais c'est une demande qui pèse lourdement sur les finances locales. La question justement donc de se poser la place de l'industrie, et comment est-ce qu'on réfléchit après la désindustrialisation, donc un urbanisme qui s'est construit autour de cette industrie, cet urbanisme-là, il est aujourd'hui à refondre. Quand vous allez dans des villes industrielles, l'imbrication entre l'industrie et la ville se fait de façon très forte. Pour ceux qui me connaissent, par exemple, Gennevilliers, on sait que l'industrie, elle est en plein centre du tissu urbain, du tissu d'habitat, du tissu de logement. À partir du moment où il y a des industrialisations et que ces villes qui ont été fortement imbriquées entre le tissu industriel et le tissu urbain, la désindustrialisation venant, cette imbrication, elle se fait, mais avec des friches cette fois-ci. Et donc se pose forcément la question de, un, le travail, puisqu'il est encore central dans la vie des gens, dans la vie de la ville. Donc si le travail s'en va, que fait la population? Est-ce que c'est une population qui reste? Est-ce qu'elle ne reste pas? Donc des prises démographiques liées aux baisses de revenus pour une collectivité, pose la question, et là c'est central, de la vie de la ville. Donc finalement, de comment est-ce qu'on habite la ville. À partir du moment où le travail est déserté, parce qu'il est monofonctionnel, c'est-à-dire seulement lié à l'industrie, comment la ville continue, elle, d'exister? Est-ce que finalement c'est une ville ou est-ce que c'est seulement une agglomération d'habitants, d'habitations? Ce problème-là, il est particulièrement important parce qu'à partir des années, du milieu des années 50, quand on a urbanisé et industrialisé très fortement ce qui est aujourd'hui ce monde périurbain, ce monde périurbain s'est vu fonctionner avec la plupart du temps une seule industrie, ou alors une industrie et puis la sous-traitance. À partir du moment où l'industrie s'en va, comme c'est une mono-économie ou une mono-activité, la ville, réellement, elle n'existe plus puisque c'est la seule chose qui faisait l'habiter. A priori, on ne peut plus agir sur cet urbanisme-là. Mais ça veut dire que lorsqu'on réfléchit l'urbanisme actuel, on ne peut pas le réfléchir autrement que par une diversification des fonctions de la ville. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des quartiers seulement de tertiaire. Le tertiaire, peut-être que demain, il n'existe plus. Peut-être que la révolution informationnelle fait que des points de développement des activités tertiaires particulièrement développées aujourd'hui, on n'en aura plus besoin demain, ou plus besoin dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, on aura fait avec des quartiers purement tertiaires la même chose que ce qu'on aura fait avec des quartiers purement industriels, avec l'habitat qui allait avec. Ça veut dire que si on réfléchit vraiment de ce que c'est que la ville et de ce que c'est que la France, et ce nouveau portrait de la France qu'on voudrait créer, ça serait un portrait qui serait d'une mixité fonctionnelle. Et puisque tout le monde est en train de parler de mixité sociale, cette mixité sociale, elle n'existe que s'il y a mixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une ville qui soit limitée dans ses fonctions et une mixité sociale. Si les gens travaillent et s'ils y trouvent tous leur compte, de fait, la mixité sociale, elle est reliée à cette mixité fonctionnelle. Ça veut dire que la place du travail est fondamentale dans ce que c'est qu'habiter, mais elle est forcément à voir avec ce que c'est que l'urbanisme et comment est-ce qu'on définit cet urbanisme. C'est une question qui n'est pas forcément neuve, c'est une question qui est développée par Henri Lefebvre dès la fin des années 60, qu'on a laissé de côté pendant longtemps, mais qui revient vraiment aujourd'hui avec non, beaucoup de force.
Vous avez précisé que c'est beaucoup de choses, un philosophe, un sociologue, un géographe marxiste et membre du Parti communiste longtemps.
Voilà. Donc selon ce qu'on est, il est géographe pour moi, voilà, peut-être pardon. Historien pour toi.
C'est ça.
C'est comme Geneviève qui est le centre du monde, la géographie est donc le centre des sciences. On est d'accord. cette question de la mixité, elle est importante aujourd'hui. Donc quand on parlait de révolution informationnelle, elle est importante parce qu'on est dans une dématérialisation de plus en plus importante des flux. C'est-à-dire qu'on a des flux de communication qui sont, certes les réseaux routiers, les réseaux ferrés dont on a l'habitude, mais qui sont aussi des flux de communication, d'Internet, de choses qui ne sont pas palpables. Qui ne le sont que parce qu'aujourd'hui, les réseaux techniques font qu'on a besoin de se poser à un endroit. Mais on peut imaginer que les progrès technologiques feront que ces endroits qui sont ces nœuds finalement de communication, ces carrefours, merci, au moins quelqu'un qui m'aide, que ces nœuds de communication, ces carrefours n'existeront plus et donc ils seront plus loin et peut-être plus importants. Et donc on assiste à ce qu'on pourrait qualifier, ce qu'on qualifie de déterritorialisation de la ville. C'est-à-dire que ces éléments qui font la vie économique capitaliste que l'on connaît aujourd'hui sont concentrés de plus en plus dans des mégapoles, dans des lieux de plus en plus urbanisés, mais qui ne font pas forcément la ville, au détriment du reste des territoires. Ces territoires sont complètement vidés de leur substance de vie et d'habiter, au-delà de seulement se loger, hein, d'habiter dans ce qui fait la ville. Et donc, finalement, cet urbain, qui n'est pas la ville en tant que telle, mais qui est seulement une construction de bâtis agglomérés, cette construction de l'urbain, elle se fait non seulement comme lieu de consommation, c'est-à-dire que c'est à la fois l'endroit où on va aller consommer, quelle que soit l'échelle, hein, ça peut être nous qui allons faire nos courses, mais c'est aussi lieu de consommation spéculatif. Mais justement, comme il est lieu de consommation spéculatif, il devient aussi objet de consommation spéculatif. C'est-à-dire que la ville en elle-même a dépassé le stade où elle est seulement le lieu de consommation pour devenir un produit de consommation. Et c'est là où on est, je crois, dans une période, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, mais là, vraiment, dans ce mouvement de déterritorialisation de la ville. Et ça vaut pour la France, comme ça vaut pour l'ensemble du monde, à quelques exceptions près, mais voilà. Donc réfléchir sur ce que pourrait être l'urbanisme, nos villes, quelle que soit l'échelle, hein, encore une fois, implique forcément que on se pose cette question du territoire, ce que veut dire le territoire. Donc il ne s'agit pas d'avoir un déterminisme territorial ou un déterminisme de milieu ou un déterminisme physique qui soit important, mais à mon sens, on ne peut pas réfléchir l'urbain si on ne pense pas à l'identité des gens qui vivent cet urbain et qui vivent cette ville, et donc s'il n'y a pas à nouveau un ancrage du territoire. En disant ça, on pourrait dire, elle est gentille la dame, mais en gros ce qu'elle nous demande c'est de retourner aux années 50, donc on va refaire de l'industrie comme avant, et puis on va refaire des territoires comme avant, et puis peut-être même on va retourner aux campagnes, et là au moins il y avait une identité territoriale qui était nette. Non, déjà parce que réindustrialiser, ça ne veut pas dire on continue et on recommence et on n'interroge pas ce que c'est que cette industrie actuelle capitaliste. Est-ce que c'est si émancipateur que ça que d'aller travailler à la chaîne ? Je suis pas complètement persuadée. Est-ce que c'est si émancipateur que ça de ne vivre que dans un endroit qui soit purement agricole et qui n'ait pas de vie sur le monde et d'ouverture sur le monde que permet Internet ? J'en suis pas persuadée non plus. Donc ça veut dire que si on décide et si on est d'accord avec l'idée que la ville, pour qu'elle soit habitée, elle soit re-territorialisée. C'est-à-dire qu'on se repose la question du territoire, de son ancrage, de notre ancrage à nous, bipèdes déplumés sur le territoire. Ça veut dire qu'on le fait forcément. Pardon pour les plumes. On le fait forcément. En se posant la question de comment est-ce qu'on intègre cette révolution informationnelle qui a changé notre vision du territoire et notre vision du monde, qui l'a rétréci, ou que l'on soit, on a une idée des paysages de l'autre bout de la Terre, ou que l'on soit, on peut instantanément ou quasiment communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre. Est-ce que ça veut dire revenir là-dessus ? Non. Donc ça veut dire qu'on prend en compte ça et qu'on repense le territoire. Je n'ai pas forcément de recette sur cette question-là, mais je pense que c'est fondamental. C'est fondamental à plusieurs titres. C'est-à-dire que si nous, dans une ville, on se sent en dehors de ce territoire urbain, urbanisé pour nous, ou pas pour nous, mais en tout cas dans lequel on est obligé de vivre, Quel que soit le territoire, aujourd'hui, il est de plus en plus standardisé. C'est-à-dire que puisque la ville, l'urbain en tout cas, l'urbain devient objet de consommation, il est reproductible et reproduit à l'infini, n'importe où sur la planète. Ça veut dire que si j'habite A, qui est fabriqué de telle façon, je peux habiter exactement de la même façon à B, sans aucune identité, sans aucun attachement au territoire. S'il n'y a pas attachement au territoire, comment est-ce que je peux m'engager avec d'autres que moi et puis dire ce territoire, je veux qu'il soit plutôt comme ça, plutôt dirigé vers, je sais pas moi, plus de culture, une éducation populaire, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'engager sur un territoire si on ne s'en sent pas partie prenante ? C'est-à-dire que la question d'un urbanisme reproductible à l'infini pose clairement la question de la démocratie. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on continue d'avoir un urbanisme qui est fabriqué par d'autres, la plupart du temps par des gens qui sont assez peu soucieux de fabriquer de l'urbanité, de fabriquer de la ville qui soit vivable, mais plutôt soucieux d'une forme de spéculation ou d'embourgeoisement des centres-villes, si on laisse ça se faire, je pense qu'on va vers une diminution de la démocratie et puis ce qui peut en advenir ensuite. Donc cet urbanisme, si on veut le réfléchir pleinement, il est fondamental, je crois, de reterritorialiser comme garantie de la démocratie. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir les meilleurs élus du monde, on peut avoir la meilleure volonté du monde. Si on a une population qui ne se sent pas partie prenante d'un territoire, ou bien elle vote pas, ou elle vote peu importe, mais en tout cas, elle ne votera pas sur quelque chose qui peut être apparenté au bien commun, à un bien commun qui serait ce territoire, qui serait la communauté, finalement, des habitants. Donc voilà, peut-être, juste pour conclure, ça me paraît pas mal. Pour conclure, donc si on repense réindustrialiser et si on pense urbanisme comme outil fondamental de la démocratie et une démocratie territorialisée, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas penser seulement la production, mais qu'il faut aussi penser la consommation de cette production. Ce qui remet en cause les modèles productivistes qui sont uniquement l'idée de produire pour produire et faire du capital. Mais ça veut dire qu'on fait une production qui est liée à une consommation réelle et pas forcément la stimulation d'une nécessité de consommation pour des choses qui arrivent forcément vers une obsolescence programmée. Le risque d'aller vers cette obsolescence programmée, il est aussi de faire une ville qui soit elle aussi obsolète. Et c'est le risque, par exemple, du développement durable. Quand on construit des écoquartiers ou quand on construit avec le label de développement durable, qu'est-ce que l'on veut dire par là ? Est-ce qu'on veut dire qu'on veut une ville qui soit réellement durable ? Quand on voit le nombre de normes qui sont imposées aux architectes, le nombre de normes qui deviennent obsolètes avant même la fin de construction des bâtiments, on peut douter un peu du souhait de la ville durable. Donc ça veut dire que là aussi, le développement durable, il est à réinterroger à partir de ce territoire, de ne pas faire que tous les écoquartiers se ressemblent, mais d'y avoir à chaque fois une identité. Voilà. Bon, j'espère vous avoir convaincu du bienfait des territoires, de les produire. Et j'attends vos questions.